Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr, le nouveau podcast de la rédaction, podcast 568. Et cette semaine, vous l'avez déjà constaté, je suis entouré du très meurtri Johnny One.
Bonjour.
Mon pauvre Johnny, que t'est-il arrivé?
Oh. Oh, un petit accident de bricolage, on va dire ça.
Voilà. Ouf. Mais heureusement, Johnny sera là quand même pour vous parler de Mass Effect Legendary Edition d'ici quelques minutes. Et à ses côtés, eh bien, le hardi, le fier, le vaillant Camille.
Hello. Ouais, pour vous parler de... Bah, est-ce que ça va vraiment étonner des gens sur le prochain Total War puisque j'ai pu poser les mains dessus, donc voilà, je vais tout vous dire sur ce que j'ai vu.
Effectivement, ça ne va pas étonner grand monde. Quant à moi, je vous parlerai après eh bien, ces différentes thématiques et évidemment vos rubriques habituelles, le win et le fail, eh bien, de Deathloop qu'on a pu voir tourner pour de vrai en compagnie du réalisateur et du directeur artistique. C'était super chouette, mais pour ça, on se retrouvera à la fin de l'émission. En attendant, on vous l'a dit, comme d'habitude, on va commencer par le win et le fail. C'est maintenant. Et on commence avec le win de la semaine, pour le coup, c'est moi qui m'y colle, puisqu'on a appris eh bien, ce week-end, à l'occasion du fan festival qui s'est tenu pour célébrer Final Fantasy XIV et annoncer le nouveau chapitre du MMORPG de Square Enix, que la saga, dans son intégralité, Final Fantasy, change de main. Jusqu'ici, c'était Shinji Hashimoto qui s'en occupait depuis maintenant une dizaine d'années. L'ancien producteur de très 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 nombreux épisodes a annoncé qu'il passait la main à 62 ans. Il ne quitte pas Square Enix. Mais désormais, il va œuvrer peut-être encore un petit peu plus dans l'ombre. Et c'est le sympathique Yoshinori Kitase qui va s'en occuper, réalisateur émérite qui a commencé avec la série sur Final Fantasy V, qui va donc devenir le brand manager, le responsable de la marque Final Fantasy pour le compte de Square Enix. Sachant évidemment qu'il a notamment produit Final Fantasy VII Remake et qu'il s'occupe aussi de la production de la myriade de spin-offs, ceux qui ont été annoncés et sans doute tous ceux qui sont quelque part dans les cartons de Square Enix et qui ne manqueront pas de faire leurs affaires tout au long de ce remake épisodique qui va a priori durer un certain temps. Du coup voilà, félicitations à ce cher Yoshinori Kitase qui est d'ailleurs étonnamment présent chez Johnny One, dans le fond du décor. Tu nous as confié ça, mon cher Johnny, juste
ici,
avant.
En dédicace sur voilà. Le 13.
Final Fantasy 13, dédicacé par Kitase en personne. Kitase qui était encore producteur à la base sur le début de ce qu'était Final Fantasy 15, roman. Heureusement, il s'est passé plein de choses depuis. Et bah voilà, on peut se dire, je pense que la saga est plutôt dans de bonnes mains parce que à l'époque, quand Hironobu Sakaguchi avait finalement quitté Square Enix, eh bien, c'est un peu Kitase qui l'avait adoubé comme successeur spirituel et qui était chargé de reprendre la licence. Du coup, c'est somme toute assez logique que ce soit lui qui a aujourd'hui 54 ans, eh bien, hérite de l'avenir de Final Fantasy. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. Je ne sais pas pour toi, mon cher Johnny.
Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas trop quoi penser de...
Tu t'en bats comme tu dirais les steaks.
Ouais, un petit peu.
Voilà. Eh bien, on remerciera les médicaments.
On va dire qu'il est, il est moins fantasque que notre ami...
Nomura.
Ah, j'ai perdu son nom. Nomura, voilà.
Effectivement, Nomura qui n'est plus le réalisateur de la suite de Final Fantasy VII Remake, qui est occupé à d'autres choses, mais qui a tracé beaucoup, beaucoup de pistes à la fin du premier épisode, qui, je pense, soulève pas mal de questions du côté des joueurs. On aura peut-être un tout petit élément de réponse le 10 juin prochain avec l'arrivée de l'épisode Intergrade sur PlayStation 5. Ça, voilà, c'était pour la bonne nouvelle, mais évidemment, la vie n'est pas faite que de ça. Vous le savez très bien, dans la vie, il y a aussi des fails, et en l'occurrence, exactement. Le fail, c'est toi, mon cher Camille.
Merci. Merci de l'annoncer comme ça. Le fail, ça va concerner deux jeux Ubisoft, non pas un, mais deux. Alors, le premier, c'est un jeu que j'attendais particulièrement, et je sais que je ne suis pas le seul, parce qu'on avait pas mal de curiosités dessus, c'était Skull and Bones. Skull and Bones, donc ce jeu de pirates qui découle plus ou moins de Black Bones, de la partie navale. D'Assassin's Creed, c'est vrai que...
Historiquement du 3, repris dans le 4, effectivement, c'était ça. Dans Assassin's Creed 4 Black Flag qu'on avait la partie la plus importante en termes de bataille navale.
Exactement, et en fait, alors le jeu a souffert ces dernières années de plusieurs choses. Le développement a totalement redémarré, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en 2019, fin 2019, parce qu'en fait, ils étaient tout simplement pas... ils trouvaient que le résultat attendu n'était pas, ne correspondait pas aux attentes de tout le monde au sein de l'équipe. Donc, ils ont repris pas mal de choses. Donc, en fait, tout ce qu'on avait pu voir à l'époque, notamment en 2017, parce que la dernière fois qu'on vous a parlé de manière concrète sur Gameblog de ce jeu, qu'on l'avait vu, de nos yeux vus, c'était Julo en 2017. Il avait pu y jouer un peu, il me semble. Ou pas y jouer, non, il avait vu une démo.
Et alors moi, j'y ai joué en 2018 et je crois que c'est la dernière fois que le jeu a été jouable quelque part. Et effectivement, on en était sorti avec quelques collègues en se disant « Bah oui, c'est les batailles navales d'Assassin's Creed. Du coup, est-ce que ça suffit pour faire un jeu AAA en bonne et due forme ?»
C'est ça. Et donc, en sachant que tout ceci, tout ce que tu as pu voir, a fondamentalement changé puisque ça a été annoncé par Ubisoft, ça a changé. Et donc la mauvaise nouvelle du jour, c'est quand le jeu qui avait une date indéfinie mais qui potentiellement pouvait sortir d'ici la fin de l'année 2021 est repoussé entre avril 2022 et le 31 mars 2023, c'est-à-dire l'année fiscale 2022. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, on a appris aussi que tout simplement le prochain Prince of Persia, The Sands of Time, le remake, le fameux remake que beaucoup de gens attendent, puisque Prince of Persia, je pense ne pas avoir été le seul, j'étais un peu bercé par ce jeu lors de mon adolescence, et du coup c'est quelque chose qu'on attend beaucoup.
Les Sables du Temps avaient très bien marché, ça avait contribué à relancer un petit peu la licence à l'époque de sa sortie au début des années 2000.
C'est même pour moi un des épisodes phares de la licence, très clairement. Et donc le jeu, maintenant, il est attendu d'ici le 31 mars 2022. Donc pareil, il va falloir attendre l'année prochaine pour pouvoir sauter de plateforme en plateforme avec le Prince de Perse. Donc voilà, c'est deux petites mauvaises nouvelles, mais en même temps, on pourrait se dire aussi que finalement, ça peut être aussi une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les jeux seront mieux fignolés, les développeurs auront plus de temps pour s'y attarder et résoudre potentiellement les problèmes qu'il aurait pu avoir si la sortie avait été avancée, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est que quand ils l'ont annoncé, alors ça avait, dans la grande tradition d'Ubisoft, évidemment, l'annonce avait fuité avant qu'elle soit officialisée, mais on avait l'impression que la sortie était relativement imminente. Et puis, il y a eu toute cette polémique sur le look du jeu. On avait quand même une refonte graphique qui était, pour rester poli, pas des plus flatteuses, finalement. Oui, Ubisoft s'était un petit peu défendu en disant « Oui, mais vous ne comprenez pas, c'est un look unique. » Alors effectivement, il appartenait qu'à lui et on a envie de dire heureusement, mais on a l'impression qu'ils étaient assez proches finalement de le lancer et qu'ils ont dû se dire...
Ils ont l'air refroidi, ouais.
Non, mais ils ont dû se dire, mais les gens l'attendent vraiment, en fait. Toi, comme moi, et comme je pense plusieurs personnes, je pense à Plume, à la Reda, qu'on est nombreux à avoir apprécié les Sables du Temps à l'époque de sa sortie. Et j'ai comme l'impression qu'ils voulaient faire un truc petit bras, et qui se sont dit « Ah merde, les gens l'attendent vraiment, en fait, on peut pas sortir ça comme ça, quoi. » C'est le sentiment que j'ai au vu de la temporalité des annonces. On a l'impression que c'est quand même un sacré bazar.
En même temps, j'ai un peu du mal à y croire, parce que quand tu vois le succès des remakes récents de jeux qui ont forgé les années 90 et début des années 2000, à l'image de Crash Bandicoot ou Spyro, quand tu vois le succès phénoménal qu'ont eu ces jeux... Faut pas être très futé au marketing pour se dire peut-être que ça n'a pas marché, quoi. C'est des jeux, ils savent pertinemment qu'il y a une attente, quoi. Enfin, donc j'ai du mal à imaginer aussi ce point de vue-là où les mecs se disent on va faire un truc petit bras parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens derrière, alors qu'ils savent que c'est une licence qui est chez eux qui attire du monde, quoi. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas moi, de mon point de vue, pourtant qui suis souvent empressé de voir les jeux que j'attends sortir, je me dis parfois il y a aussi du bon là-dedans dans l'attente, parce que les jeux seront mieux fignolés et effectivement, comme tu l'as dit, au niveau du design, etc., il y aura l'occasion de retravailler un peu tout ça qui faisait un peu tiède pour rester poli, quoi.
Et pour citer Trace, bon bref, on le croisera donc d'ici la fin de l'année fiscale qui a débuté, donc d'ici au 31 mars 2022, voilà.
Tout à fait.
Eh bien, c'est tout pour l'actualité haute et basse de cette semaine. On va du coup passer dès à présent au thème numéro 1. Et comme chaque semaine, mon cher Johnny, c'est toi qui as la primeur de ce thème, puisque tout tu es fait. Retourné dans l'espace. Tu as fait Explorer un petit coucou à Thomas Pesquet en passant et tu en es revenu bouleversé, ou pas.
Je suis allé un peu plus loin que lui, enfin virtuellement.
Du coup, c'est toi qui t'es collé au test de Mass Effect Legendary Edition. Alors, mon cher Johnny, quel effet ça fait de retrouver le commandant Shepard ?
Eh ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à Mass Effect. Hein. Enfin, longtemps. Non, on avait eu droit à Andromeda, souvenez-vous. Que dire d'Andromeda ?
Je crois que tu as tout dit à l'époque où tu avais fait le test.
Ouais, c'était pas top, hein, franchement. Enfin, c'était bien, hein. Le jeu était bien, mais il y avait des petites failles scénaristiques. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler d'Andromeda, on est là pour parler de la trilogie Legendary Edition qui est revenue, donc. Après, plus de 10 ans, hein. Est-ce que les jeux n'ont pas trop vieilli? C'est ce qu'on va voir. Alors en fait, qu'est-ce que vous avez quand vous achetez ce bundle de 3 jeux? Donc vous avez les 3 jeux, le premier, le deuxième, le troisième, avec tous les DLC. Donc les personnages supplémentaires dans le 2, l'attaque de l'astéroïde fou dans le premier, dans le 3, le DLC Citadel par exemple. Enfin bon, bref, il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a même les trucs de précommande, les armes de précommande et les armures de précommande qu'on pouvait avoir chez Game ou Micromania.
Et ça, on sait que ça te tient particulièrement à cœur, les bonus de précommande.
Ouais. Donc, on a tout, on a vraiment tout. En plus de ça, il y a des nouveaux succès qui sont ajoutés au jeu. Donc, même si vous aviez déjà fait les trophées de platine ou les 1000 points sur Xbox il y a une dizaine d'années, vous allez pouvoir le refaire. Et en plus, c'est plus facile. C'est-à-dire que le premier Mass Effect, par exemple, en un seul run, on peut avoir tous les trophées en une seule partie, ce qui n'était pas le cas avec les vieux jeux qui prenaient beaucoup, 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 beaucoup plus de temps. Et fait assez amusant, il y a une quatrième ligne de succès qui vient se superposer aux trois lignes des trois jeux. Et donc, c'est des succès supplémentaires, en fait, qui sont liés aux trois jeux, et c'est assez amusant. Donc, par exemple, finir le jeu, les trois jeux avec le même personnage, ce genre de truc. Des succès qui vont être filés sur les trois aventures.
Mais parce que justement, le fait qu'ils soient tous réunis, ça permet peut-être plus qu'avant d'avoir une continuité des choix que tu vas faire tout au long de l'aventure, parce que c'était aussi l'un des intérêts quand même s'il n'a pas toujours été respecté, de Mass Effect.
Non, le seul truc, la seule nouveauté filée qu'il va y avoir, c'est vraiment cette ligne de succès, c'est tout. Cette ligne de succès supplémentaire qui s'appelle Legendary Edition.
Donc, qui aurait dû s'appeler Johnny One Edition, on est d'accord.
tu sais que je ne les ferai pas, les 100% de ce truc-là. Il y a un truc qui te demande de faire les trois jeux à la suite en mode démentiel. Eh, c'est bon, vas-y. Moi, je joue en facile. Voilà, je ne suis pas là pour souffrir. Et
du coup, tu parlais de son âge. Est-ce que graphiquement et en termes d'ergonomie, on sent le poids des âges, surtout sur le premier épisode qui a quand même presque 15 ans?
Le premier épisode, là où il souffre vraiment, lui, c'est en termes de jouabilité. Il est moins orienté à action que le 2 et le 3. Il est plus RPG, hack and slash. Et j'avoue qu'en termes de jouabilité, ça a un peu vieilli. Alors, il y a eu des petits ajustements ergonomiques, type aide à la visée ou déplacement du personnage. C'est un peu plus agréable de contrôler le jeu dans sa version PS4 que dans la version PS3, par exemple. J'ai relancé le jeu sur PS3 pour comparer, par exemple. Donc, c'est plus agréable de jouer à cette version Legendary Edition qu'aux vieilles versions. Voilà, les commandes ont été un peu revues, rendues un peu plus ergonomiques. Mais l'autre truc qui a été amélioré, c'est les graphismes. Donc, il y a un léger coup de polish graphique qui a été ajouté un peu partout. Dans les décors, on a remis des herbes un peu partout, on a fait des roches un peu plus fines, on a mis des textures un peu plus fines sur les personnages, on a retaillé les modèles 3D des visages. Bref, on a procédé à ce genre de travaux. Tout n'a pas été refait, mais la plupart du jeu a été refait. On a aussi pas mal retouché les éclairages, les effets de lumière, ce genre de choses. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne comme résultat, ça? C'est pas terrible, en fait. C'est alors, moyennement
quand tu dis c'est pas terrible, le matériau de base qui était très quali déjà à l'époque, ça n'a pas changé.
Oui, mais ça a vieilli en fait. En vrai. Ça a vieilli et malgré le coup de polish, on sent la vieillesse du truc. C'est-à-dire que malgré le coup de polish, on reste sur un jeu qui est de la génération précédente. C'est clairement pas un jeu de PlayStation 4. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'upgrade graphique n'est pas si foudroyant que ça, voilà, si flamboyant, ça, c'est pas fou, voilà.
Ça réactualise timidement, on va dire.
Ouais, vraiment, c'est vraiment timide en fait, en vrai, l'upgrade graphique. Et surtout, c'est pas servi par les choses qui ne changent pas. Donc, je vous ai parlé de la jouabilité qui est un peu raide, les déplacements, malgré les petits ajouts ergonomiques, ça reste super raide et tout. Les animations des personnages, mon Dieu. Les animations des personnages pendant les cinématiques, c'est bah voilà, ça a plus de 10 ans. Et ça, par contre, ça reste. Et c'était déjà cheap à l'époque, quand c'est sorti sur 360. Alors là, en plus, moi, j'y ai pas joué sur Play 4, j'y ai joué sur Play 5 au truc. Donc c'était déjà cheap à l'époque sur Play 4. Bah, deux générations de consoles plus tard, ça l'est, mais encore plus, quoi. Voilà. Donc bon, c'est assez rageant au final, d'avoir droit à ça, parce qu'on en attendait peut-être un peu plus. On aurait pu, je sais pas moi, espérer une petite retouche des animations, un petit lissage de la jouabilité encore plus fort avec... Enfin, je sais pas, c'était pas compliqué de mettre des ennemis qui droppent des cartouches de munitions dans Mass Effect 1, quoi. Ça aurait pu se faire, franchement.
En vérité, il y a beaucoup de gens qui attendaient un remake aussi. Enfin, qui attendaient un remake des trois premiers, qui auraient pu vraiment avoir un vrai coup de polish, comme avait pu faire... Touquet avec Mafia, quoi, quelque chose qui est vraiment un vrai remake, quoi.
Demon's Souls, Resident Evil,
oui, c'est voilà. ça,
on ne citait que voilà. Ouais, bah non, bah, clairement, on est clairement pas sur ça, on n'est pas sur ce truc là. Ceux qui attendaient un remake, non, c'est pas un remake, c'est une compile, vous savez, The Best là, avec trois jeux dedans, c'est marqué The Best. Tac, et avec un macaron avec le prix, tu sais, 30 euros. Voilà. Et c'est ça, voilà, c'est ça. Sauf que le truc a pris un petit coup de polish. Il y a eu un petit coup de polish graphique, j'avoue. Il y a eu un peu de travail. C'est pas juste on a mis les trois jeux comme ça dans la boîte. Est-ce que ce coup de polish vaut la différence de tarif qui sera demandée avec le petit macaron de prix dont j'ai parlé là, sur la boîte de cette compilation? Parce que ce jeu, il est vendu combien? Alors bon, vous allez me dire, on peut se débrouiller pour le trouver moins cher. Mais si tu vas au magasin, là, mamie, là, demain, elle va au magasin pour l'acheter pour son petit-fils.
La 70 la fameuse grand-mère qui se lève pour aller acheter Mass Effect.
Celle des publicités, Micromania, tu te rappelles?
Voilà. Pour son petit-fils.
Pour son petit-fils, exactement.
Oui, ça, c'est l'excuse.
En fait, c'est pour elle. Et ben, 70 euros, je trouve ça beaucoup trop. Voilà. Pour cette compilation, qui devrait être vendue 30, 40 euros. Là, pour le coup, vu le travail qui a été effectué dessus, je trouverais ça logique.
Au vu du contenu, parce que les trois épisodes de Mass Effect, t'es quand même parti pour des dizaines et des dizaines d'heures d'exploration, de phases de combat, etc. Pour ceux qui auraient envie de tout se refaire d'un coup, ça paraît quand même assez tentant.
Il y en a pour entre 70 et 100 heures. Ça dépend le temps que tu prends, ta connaissance du jeu, etc. Là, le platine du premier, ça m'a pris 25 heures à peu près. Le platine du premier Mass Effect de la compilation. Oui, non, c'est sûr qu'il y a du contenu. Il y a du contenu.
Parce qu'il y a même une chose qui a été corrigée. On sait que Mass Effect 3 avait beaucoup fait parler de lui, notamment à la fin, parce que, on va dire que tes choix, le fait d'avoir ou non un peu pioché dans le mode multi, conditionnait l'ouverture de certains choix à la fin de l'aventure. Ça a été corrigé, par exemple. Donc, on va pas dire que c'est une raison suffisante, peut-être, de s'y remettre, mais...
Non, en fait, si tu l'as déjà fait, ça va te faire plaisir. Tu vas retrouver le même jeu. En fait, tu vas retrouver le même jeu, exactement le même, mais dans des conditions un peu meilleures. Voilà. Je te parle de conditions un peu meilleures. Genre, moi, j'y ai joué sur Play 5. Tiens, il fait 100 gigas quand même, le truc. J'ai fait passer le jeu. Alors déjà, tiens, sur Play 3, les chargements n'étaient pas très longs. C'était de l'ordre de la vingtaine de secondes. Quand tu passes sur Play 4, tu diminues ce temps-là, tu passes sur la dizaine de secondes, et quand tu mets le jeu sur le SSD, tu es quasiment sur du temps de chargement instantané. C'est du 1, 2, 3 secondes. 3 secondes pour charger une planète. Voilà. Ça, c'est très agréable d'y jouer dans ces conditions-là. Donc, si tu as déjà fait le jeu, tu vas retomber sur quelque chose que tu as aimé, que tu vas toujours aimer. Qui va te faire plus, tu vas voilà, pouvoir repasser 100 heures dessus à l'aise, tranquille, et tu vas pouvoir en profiter dans de bonnes conditions, enfin dans de meilleures conditions qu'en ressortant ta vieille Play 3 ou ta vieille Xbox 360. Par contre, si tu es novice en la matière, bon, c'est sûr que c'est la meilleure façon de le faire, mais il faut être prévenu que c'est pas...
C'est resté un peu dans son...
C'est un vieux jeu, ouais, c'est un vieux jeu, quoi.
C'est pas les standards
du rétro gaming. Non, on est sur du rétro gaming qui a été un peu... qui a pris un petit coup de polish, mais pas plus, quoi.
Voilà. C'est vrai que Camille a raison, les standards ont beaucoup changé, et autant le jeu, surtout le premier, a été quand même salué à sa sortie, c'est vrai que le game design, d'une manière générale, a quand même vachement changé. On parlait de rétro gaming, moi je viens de reprendre Resident Evil 4, j'en avais un tout autre souvenir que ce qu'il était en termes d'ergonomie, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on se dit que EA, l'éditeur, aurait pu pousser les développeurs à corriger peut-être un petit peu plus de choses, à le rendre vraiment plus 2021, quoi.
Je pense que ce qui aurait pu être intéressant, c'est un travail sur les animations. Mais ça aurait forcé à revoir un peu toute la jouabilité du jeu. Mais tant qu'à le faire, pourquoi pas? Et tu fais ça, mais le travail, tu le fais qu'une fois. Et tu appliques ce nouveau lissage à tes trois jeux, et tu fais une trame où tu fais ce que les fans voulaient un petit peu, c'est-à-dire une seule aventure d'un seul bloc. Enfin bon.
Ce que Camille évoquait avec l'opportunité d'un remake tout à l'heure, quoi.
Ouais. Là, vraiment, on est sur la boîte compilation avec le macaron avec le prix dessus, mais qui a reçu un petit coup de polish.
Oui, alors voilà. Quand on met un macaron, d'ordinaire, c'est que le prix est plutôt réduit. Ouais.
Là, pour l'instant, c'est au prix fort. Donc, moi, mon conseil, ce serait plutôt d'attendre une petite promo, quoi, pour jouer à ce truc-là. Parce que, notamment sur console, le tarif nous semble un petit peu cher.
Toi, Camille, du coup, tu vas pas repartir dans l'espace ?
Non. Bah, en fait, parce que la description que tu m'en fais, ça me fait l'effet d'un beau livre. Tu vois, un beau livre que tu trouves dans une bibliothèque qui est ancien et tout. Tu sais qu'il est ancien. Tu l'as déjà lu. Tu sais que c'est beau. Tu le revois dans la bibliothèque, la bibliothécaire, elle l'a nettoyé à fond. Le truc, il a une belle couverture et tout. L'intérieur, les pages ont été rafistolées, mais c'est toujours le même bouquin et c'est toujours la même histoire. Et voilà, il y a toujours des pages qui sont écornées, etc. C'est un peu le feeling que tu me fais passer en parlant de ce jeu.
Je m'insurge contre cette métaphore parce qu'un texte ne vieillit pas comme un jeu,
oui,
mon cher Camille.
Certes.
Tu pousses le bouchon un peu loin.
Bah ça dépend ce qu'il y a dans le texte. Si c'est un texte qui est dans son époque, dans son jus,
exactement.
Un texte du 19e siècle, il y aura des trucs qui vont te choquer, mais parce que voilà, c'est la société de l'époque qui voulait ça. Quoi. Et là, bon, ça me fait un peu plus de
voilà. Ouais, du coup, même toi, t'es pas emballé, et toi, Johnny, quand on est ressorti, c'est mitigé, pour le coup, comme expérience.
Ouais, je vais le boucler, hein. Je vais faire les trois.
Bon, je te rassure, on s'inquiétait pas beaucoup à ce sujet-là. Hein.
Ouais, voilà, j'ai pas encore vu le bout des trois aventures, mais je vais en voir le bout et à fond, voilà, et avec plaisir. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je ferais pas mieux de jouer à un autre truc? J'en sais rien.
Oui, du coup, avec l'avalanche de sorties qui va arriver là dans les prochaines semaines, toi, tu conseilles très clairement de temporiser et d'attendre quelques petits mois que le jeu baisse un peu au niveau du tarif. Ouais. Qu'il a un vrai macaron.
Ce serait raisonnable, voilà.
Bon, eh ben très bien. Merci, mon cher Johnny.
De rien.
Tu vas pouvoir quitter ton vaisseau et redescendre sur Terre.
Exactement.
Attention au moment de l'atterrissage, parce que j'ai peur pour tes cervicales quand même. Vous l'aurez compris.
C'est bon, j'ai mon armure.
C'est un peu dur aujourd'hui.
J'ai pas vu le petit macaron N7.
En tout cas, on te remercie et comme chaque semaine, on te libère.
Ouais, je vous fais des bisous, les mecs.
Nous aussi, on te fait des gros bisous. Alors, et prends soin de toi, évidemment.
Allez, bisous, à bientôt, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Et voilà, c'est tout pour le premier thème. Et maintenant que nous sommes entre gens bien, la crème de la crème, le haut du panier, mon cher Camille, tu vas pouvoir nous parler de Total War, Warhammer 3, que tu as pu découvrir pour nous il y a quelques jours.
Exactement, puisque vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. En gros, la saga Total War, elle se décline en trois gros opus. Vous avez les opus historiques, donc, qui ont fait connaître la saga. Vous avez les Rome Total Wars, les Medieval Total Wars, les Shoguns, etc. Vous avez les épisodes qui s'appellent Total War Saga, qui sont historiques, mais centrés sur une période très précise de l'histoire. Par exemple... le règne,
ça c'est l'épisode contemporain,
oui c'est ça,
l'épisode de la Macronie,
je sais pas, la chute de l'Empire romain, voilà, les invasions vikings, etc., comme il y a eu précédemment. Et vous avez depuis 2016 les épisodes, on va dire, sur des univers totalement différents qui ne sont pas du tout historiques, et notamment la saga Warhammer, qui parlera sûrement à beaucoup. Donc on a eu deux excellents épisodes de Warhammer. qui était depuis le début, on sait que c'était pensé comme être une trilogie, hein, ça c'est pas une surprise qu'il y ait un troisième épisode, puisque moi je me souviens, pour la petite anecdote, quand j'avais vu la première fois le tout premier Total War Warhammer 1, ils nous avaient dit on a plein d'idées en tête pour les deux prochains, ça sera pensé comme ci, comme ça, à la toute fin dans le troisième, vous aurez une carte de campagne qui inclut tout, donc là je vais vous revenir dessus. Donc Total War Warhammer 3, c'est l'occasion de reprendre tout ce qui s'est bien fait dans les deux précédents épisodes, rajouter, comme pour citer Johnny One, un petit coup de polish au niveau technique et graphique, c'est-à-dire en apportant en respectant un peu plus les standards de 2021, parce que forcément depuis 4-5 ans, les choses ont évolué graphiquement. Donc évidemment, c'est pas faut pas s'attendre à un changement drastique en termes de graphisme, à quelque chose d'éblouissant, mais ça reste très très agréable à l'œil. Et évidemment, comme toujours, un nouvel épisode de Total War Warhammer, c'est l'occasion d'ajouter des nouvelles races, puisque il y a Pétoir de Vraz dans l'univers, dans le lore, dans le background de Warhammer. Il y en a une vingtaine, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même plus, des factions qui se battent les unes des autres. Et là, notamment, c'est l'occasion d'apporter une faction que beaucoup de gens attendaient, c'est-à-dire le royaume de Kislev, qui s'inspire très... très clairement du Moyen-Âge russe, notamment de la Russie kievienne, que ce soit au niveau des uniformes, que ce soit au niveau des armures, etc. On est clairement sur de l'orthodoxie médiévale russe.
Il y a des popes dans la faction ?
Non, mais on a une...
ça aurait pu être rigolo de les voir en mage noir ou un truc comme ça.
On a une tsarine qui chapeaute un peu cette nouvelle faction. Donc c'est, pour ceux qui connaissent Warhammer, c'est la tsarine Katharine. Voilà, pareil, Catherine de Russie. Enfin, vous voyez un peu où ils veulent en venir avec ça. Et donc, c'est l'occasion d'avoir des nouvelles troupes toutes fraîches, des nouveaux pouvoirs, etc., qui sont centrés. Et surtout, là, l'occasion pour cet opus, pour nous en tout cas, pour le bien de la démo, ça a été de découvrir un tout nouveau mode de jeu, puisque, comme vous le savez, l'univers Total War se décline en deux phases. Vous avez les phases de la carte de campagne. Donc, vous avez la carte de campagne dans lequel vous gérez votre faction, son économie, sa diplomatie. Vous allez arranger des missions, des actes diplomatiques avec les autres factions. Vous allez prendre en charge des missions, gérer votre royaume, construire des bâtiments, etc. Et vous avez les phases de bataille en temps réel. Et donc là, c'est justement les batailles en temps réel que nous avons eu l'occasion de découvrir.
Alors, tu les as vues en l'occurrence ou tu as pu y jouer un petit peu ?
Ouais, j'ai pu y jouer. Alors justement, comme je le disais dans ma preview, je crois qu'on t'entend, Poufi.
Non, non.
Ouais, moi, j'entends Poufi, moi, personnellement.
Oui, mais nos lecteurs ne savent pas ce qui se passe.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc, je ne sais plus où j'en étais, du coup.
Que tu as pu y jouer, les batailles grandeur nature
Oui, donc on a pu jouer dans des conditions assez particulières à ces batailles, puisqu'en fait on a joué uniquement en streaming, en cloud gaming. Voilà, c'est maintenant pour vous donner un petit aperçu du making-of de tout ça, tous ces événements à qui on assiste. Il y a de plus en plus un peu une paranoïa au niveau de la sécurité, etc. Et donc du coup, c'est le moyen le plus sûr pour eux d'être en cloud gaming, qu'on puisse pas faire du data minage, notamment d'une démo, parce que vous avez pu le voir, on vous en parle souvent des fuites sur Gameblog. Souvent, quand il y a des fuites, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quelqu'un qui a accès à une démo, quelqu'un qui a accès à une bêta, qui fait du data minage de fichiers, que ce soit sur Steam ou ailleurs, et qui réussit à trouver des informations. Donc, c'était un peu l'occasion pour eux qu'on puisse pas mettre notre nez là où ils n'avaient pas envie qu'on le mette. Donc, on a joué en cloud gaming, c'est pas forcément le plus agréable pour nous. La capture que vous voyez dans notre preview sur Gameblog, c'est une preview qui est très propre en termes de vidéo, puisque c'est eux qui l'ont capturé de l'autre côté. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était très difficile de savoir vraiment à ce que je jouais, puisqu'il y avait des problèmes d'artefacts visuels, etc., dans tous les sens. Donc, c'était pas fort, malgré une connexion fibre très importante. Donc, c'était un peu problématique.
Je vais tout à fait dans ton sens, parce que c'est vrai qu'on parle pas forcément des coulisses, de comment se passent les previews maintenant, là, en 2021. Mais c'est vrai qu'on a notamment cette déperdition. Alors, heureusement, la plupart du temps, c'est vrai que les captures nous sont fournies par les éditeurs et du coup sont véritablement natives. C'est pas forcément ce que nous, on peut voir après en étant surtout de chez nous, hein, comme c'était le cas ici. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un espèce de contrôle extrême, un encadrement avec plusieurs couches sur les sessions preview. Et bientôt, il faudra donner notre sang pour pouvoir participer. Moi, j'en suis pas loin, là, en tout cas, avec les dernières. Donc, voilà. Sachez que si on continue à voir des jeux, ça devient très, très, très restrictif. On comprend évidemment pourquoi, mais voilà, c'est pas forcément aussi simple et...
Tout à fait. Et donc, bah, pour rebondir là-dessus, donc on a pu voir un nouveau mode de jeu, un nouveau mode de bataille qui se nomme de domination et qui, en fait, s'inspire totalement de ce qu'on retrouve dans les tower defense et dans les MOBA. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une gestion, alors là, purement en temps réel des troupes, puisqu'en fait, quand vous jouez en bataille en mode classiquement dans un Total War, ce sont des troupes que vous avez recrutées sur la carte de campagne, et donc du coup, une fois que vous êtes dans le mode de bataille en temps réel, vous ne pouvez plus y toucher. Vos troupes, elles ont été recrutées auparavant, vous les utilisez, si vous n'en avez pas assez, c'est votre problème, et bon, voilà, vous perdez la bataille ou non.
C'est comme ça qu'on perd la guerre.
Exactement. Là, dans le mode domination, la différence, c'est qu'en fait, vous allez, la carte se sépare en plusieurs points que vous allez devoir dominer. Du coup, vous allez faire de la capture de drapeau. Et une fois capturé une zone, vous allez pouvoir construire donc, des défenses pour sécuriser la zone, donc, d'où le côté tower défense. Et vous allez pouvoir recruter des troupes directement via des portails dimensionnels pour s'adapter directement à l'ennemi. Et donc, ça apporte un côté tactique et stratégique beaucoup plus intense, puisqu'en fait, selon les troupes que vous voyez arriver dans le camp adverse, vous allez pouvoir adapter votre tactique en conséquence et donc recruter des troupes c'est un peu le côté pierre-feuille-ciseau si vous préférez. Voilà, vous allez voir un ours, un ennemi élémentaire de feu en face, donc du coup vous allez peut-être trouver vous aussi un ennemi élémentaire de votre côté pour essayer de lui faire face. Si vous voyez qu'en face vous avez des ennemis qui peuvent voler, vous allez peut-être potentiellement prendre des archers pour pouvoir les dégommer. Il y a tout ça, tout cet aspect-là un peu plus tactique, et vraiment c'est hyper prenant. Moi, je ne suis pas spécialement les épisodes Warhammer, ce ne sont pas du tout mes préférés au sein de la saga Total War, parce que vous savez, je suis un gros amateur d'histoire, donc moi c'est vraiment les côtés historiques qui me parlent le plus.
Les gens ne vont pas tomber de leur siège, je te rassure.
C'est ça. Mais là, vous avez quelque chose de vraiment viscéral, en fait, et de vraiment hyper tactique. Si vous aimez la vitesse, le côté viscéral d'un MOBA, vous avez ce côté-là où vous allez pouvoir recruter un héros tout de suite, aller tabasser le héros d'en face le plus vite possible pour que les bonus ne puissent pas rentrer en jeu, puisqu'en fait, il y a beaucoup de pouvoirs passifs chez nos héros qui apportent en fait de divers bonus à nos troupes. Et en fait, forcément, si vous voyez un héros ennemi en face, il va falloir se concentrer tout le feu sur lui pour qu'il puisse ne pas donner des boosts à ses alliés. Donc vous avez vraiment un côté très viscéral, très rapide. Vous allez envahir dès que vous envahissez une zone, tout de suite vous avez une roue de construction, vous allez construire des barricades, vous allez construire des tours d'archers, des tours magiques, etc. qui envoient des boules de feu, etc. Enfin, c'est vraiment très viscéral et c'est hyper agréable à jouer.
Est-ce que l'IA en face fait le taf, parce que mine de rien, si on arrive trop vite à lire dans le jeu de l'adversaire, ça peut perdre de son intérêt malgré la nervosité.
Dis-toi qu'elle fait tellement bien le taf qu'en une heure de jeu, j'ai échoué. La démo durait 2 heures, j'ai échoué deux fois en sachant que ça marche. Une partie durait 1 heure en fait. Tellement c'est compliqué, tellement il y a des nids, tellement ils vous prennent à revers, ils vous enserrent dans tous les sens. Donc de ce côté-là, c'est pareil. C'était quelque chose qui était assez décrié dans certains épisodes, mais depuis quelques années, ils ont fait un gros effort au niveau de l'IA et elle s'en sort, ma foi, plutôt bien. C'était même parfois trop compliqué.
Ils ont mis à mal un fin tacticien comme toi.
Je t'avoue que quand tu passes 40 minutes à élaborer des tactiques, que tu es vraiment à la toute fin, c'est-à-dire j'étais vraiment à la phase numéro 3, juste avant, en fait, c'était un boss final à la fin qui apparaît, enfin, c'est le grand méchant, en fait, en gros, qui apparaît avec ses troupes d'élite. Tu dis, ah, c'est bon, je vais pouvoir un peu plus souffler, je vais me concentrer que sur le boss. Tu tapes le boss et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a des troupes par centaines qui arrivent. Tu te dis, merde, j'ai plus assez de points pour recruter de troupes, parce qu'en fait, ça fonctionne par un système de points. En fait, plus vous restez dans des zones, votre zone à sécuriser, et plus vous tuez d'ennemis, plus votre jauge de points augmente, et plus vous allez pouvoir recruter de troupes. Et donc là, tu te dis, tu vois, ta barre de points qui se réduit drastiquement, puisque toutes tes troupes qui défendaient la zone, elles sont parties à l'offensive. C'est vraiment, ça te prend à la gorge et c'est hyper agréable. Je me répète, mais c'est hyper viscéral. Et vraiment, au bout d'une partie comme ça, tu transpires. C'est un peu un jeu dans un jeu, en fait. Déjà, dans Total War, tu avais deux jeux dans un jeu, parce que, comme je dis, tu avais la partie gestion sur la carte de campagne et la partie bataille. Et là, tu as encore une troisième partie dans la partie bataille qui est complètement différente, qui se rapproche du MOBA et qui permet d'apporter un vent de fraîcheur comme ça sur la saga Total War. Et ça, on peut remercier Creative Assembly d'avoir d'avoir toujours l'originalité, de proposer des choses nouvelles et d'essayer de changer le classique pour rafraîchir sa recette.
Et d'avoir tenu ses promesses, du coup, puisque tu nous parlais de ce qu'il disait dès le premier épisode, on voit qu'effectivement, ils ont su l'entretenir et la transformer aussi sur la durée au travers de trois épisodes différents.
Bah c'est ça, parce que quand tu te dis on fait une trilogie de jeux de stratégie qui porte le même nom avec juste un chiffre différent, tu peux te dire peut-être qu'au bout du troisième épisode, il va peut-être avoir une redite.
On va finir par tourner en rond, ouais.
Voilà, là, malgré tout, il n'y en a pas spécialement, et surtout qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde. C'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est que moi qui ne suis pas un fan de Warhammer, même pas du tout, qui même parfois des blocages avec l'univers, j'apprécie le jeu, puisqu'ils font en sorte de te proposer suffisamment de nouvelles mécaniques en stratégie pour t'attraper par le col et te dire bah, tu vas kiffer ce jeu. Tu vois. Et c'est ça qui est hyper agréable. Quoi.
C'est d'autant plus dommage qu'il y a un Games Workshop pas très loin de la rédac dans lequel vrai. J'imagine que tu n'as jamais mis les pieds.
Jamais mis les pieds. C'est exact. Et enfin, pour conclure sur cet épisode, pareil, c'est pas une nouveauté, mais ça a été confirmé. En fait, ce troisième épisode sera l'occasion pour la carte de campagne de réunir toutes les zones des deux jeux précédents, toutes les factions des jeux précédents, si toutefois vous possédez les deux jeux, si vous les avez dans votre bibliothèque Steam, pour pouvoir avoir une immense carte de campagne qui inclut tout le contenu en fait, des trois épisodes. Donc là, si vous êtes fan de Warhammer, vous allez être aux anges puisque vous aurez vraiment tout le background de Warhammer à votre disposition, tous les héros, tout ce qui s'est fait depuis 2007, chose qui peut potentiellement vous accrocher, même si je vous dis si vous n'êtes pas un fan de Warhammer. Quoi. Donc c'était vraiment une belle expérience, c'était très sympa. J'attends avec impatience de pouvoir découvrir le jeu qui est prévu pour la fin, d'ici la fin de l'année 2021, sans plus de précision.
Sur PC,
sur
ça
PC
va sans
uniquement,
dire.
On précise, ouais.
Voilà. Eh bien, écoute, merci, mon cher Camille. Je suis navré d'apprendre que tes deux tentatives sont soldées par des échecs cuisants, mais c'est comme ça. C'est la vie et on ne peut pas réussir à tous les coups. Napoléon, si tu nous écoutes. Et du coup, on va passer désormais à toute autre chose. On va complètement changer d'univers et même de gameplay, puisque eh bien, maintenant, on va vous parler de Deathloop, que j'ai pu pour le coup voir en preview et non pas jouer malheureusement. On retrouve les travers et les limites de l'exercice. Deathloop qui avait été reporté pour sortir là à la fin de l'été et on a pu voir enfin le début de l'aventure, en plus en compagnie du réalisateur et du directeur artistique, donc c'était riche d'enseignements. Vous avez évidemment la preview qui est d'ores et déjà disponible sur Gameblog. Et moi, je ne vous cache pas que c'était le jeu que j'attendais le plus en 2021. Donc, j'avais quand même des attentes qui étaient assez élevées en découvrant cette nouvelle partie de gameplay. Et j'ai été, pour la quasi-totalité, assez conquis finalement par le nouveau jeu d'Arkane. Alors, on situe très rapidement pour ceux qui auraient vraiment réussi à louper le train toutes les fois où il est passé. Deathloop, c'est donc le nouveau jeu d'Arkane Lyon, dans lequel on va une nouvelle fois incarner un protagoniste avec une vue subjective, sauf que cette fois-ci, on est dans un univers qui est un peu plus contemporain. L'influence est très clairement piochée dans les années 70, on va y revenir juste après. Et ce héros, Colt, est coincé dans une boucle temporelle qui dure une journée, comme ce fameux film avec le jour de la marmotte et ce cher Phil Connors. Et lui, pour le coup, voilà, je ne voulais pas le citer, mais comme ça, c'est fait. Et du coup, plutôt que de tester plein de trucs, se suicider ou essayer de trouver l'amour, là, pour sortir de cette boucle, il n'a pas le choix. Il va devoir abattre 8 cibles, les Visionaries, qui sont 8 protagonistes clairement identifiés. Et il va falloir réussir en une seule boucle, donc une seule journée, à descendre ces 8 personnages. Et pour ça, eh bien, il va falloir faire preuve de pas mal d'imagination et explorer l'île de Black Reef sur laquelle on se trouve, puisque oui, l'aventure va se jouer sur une île, et c'est justement sur une des côtes que l'aventure commence, alors que Colt se réveille, émerge d'une boucle qui vient de se terminer, puisque très rapidement, on comprend que c'est pas la première. C'est très clairement pas la première boucle, ça fait un moment qu'il est là, qu'il recommence tout un tas de choses, et il s'est laissé des messages à lui-même, puisqu'il a bien compris comment ça marchait. Il est malheureusement amnésique à chaque fois qu'il reboot, et comme il a appris plein de choses sur le fonctionnement, l'agenda, les mécaniques de cet univers, eh bien, il se laisse des messages, sauf qu'il n'est pas forcément à même de les comprendre tout de suite. Donc c'est assez rigolo, parce que l'acting est très bon. C'est bien écrit, c'est bien joué, et notre personnage, en fait, s'interpelle lui-même en disant qu'il comprend pas ce qui s'est noté, en fait, et ça donne une scène quand même assez savoureuse dès le début de l'aventure où il finit par gueuler dans le vide en disant mais je comprends pas ce que tu me racontes, putain. Et
bon, c'est un peu novateur, je trouve. Enfin, c'est même si, comme tu disais, c'est pas une histoire, enfin c'est pas la première fois qu'on compare cette histoire, parce que dans le cinéma il y a déjà eu ce type de film, notamment il y a quelques années, il y a eu Edge of Tomorrow avec Tom Cruise qui reprenait un peu ce principe-là. Mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez novateur et je trouve ça, enfin, c'est une bonne opportunité justement d'apporter des mécaniques de jeu et des réflexions un peu différentes. Je trouve ça très sympa comme idée.
Oui, et puis c'est vraiment en fait au cœur, c'est complètement intégré au gameplay parce que ça a des allures de FPS, d'immersive sim, mais en fait assez rapidement tu te rends compte que le jeu se transforme un petit peu en puzzle, en immense puzzle à la première personne, parce que justement l'idée va être de réussir à tuer ces 8 cibles. Alors l'île est divisée en 4 zones, vous avez vraiment 4 zones différentes avec des identités propres et assez marquées, réparties sur 4 moments de la journée différents, matin, midi, après-midi et soir, et en fonction de ça, bah, les gens vont, comme dans un vrai jeu, et Majora's Mask au premier d'entre eux, vont se déplacer en fonction d'un agenda. Un tel se trouvera pas à tel endroit, il y en a un qui va arriver que le soir, ou ce genre de choses. Et du coup, la séquence de gameplay qu'on a vue, c'était justement un petit peu porté là-dessus. C'était une phase d'abord d'infiltration et de combat pour découvrir l'identité d'un des personnages. Si vous avez joué à Dishonored, n'importe quel épisode de la série, vous savez que des fois, il faut d'abord pouvoir identifier sa cible avant de l'assassiner, parce que on va pas buter tout le monde, il faut quand même trouver la bonne personne. Ouais, complètement. Et on avait déjà eu cette mécanique dans un Dishonored, justement à une soirée un petit peu mondaine où on avait des personnages dissimulés derrière des masques et il fallait trouver laquelle de ces dames était celle qu'il allait falloir ou zigouiller ou réduire au silence d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et justement, on est dans un environnement un peu plus mondain parce que l'un des premiers lieux qu'on va pouvoir infiltrer, c'est une espèce de villa, villa sur pilotis au bord de la falaise. Ça fait tellement James Bond. On a vraiment une inspiration qui est très clairement marquée. Alors en plus, au début, vous avez la chanson thème, déjà vue, qui te parle justement de cette boucle, du fait que tout recommence encore et encore. On est très clairement plongé dans l'univers de Ian Fleming. Ça fait partie des influences assez évidentes d'Arkane pour cet épisode. Et je vous le disais, en plus, années 70, donc avec vraiment des matériaux, des couleurs et surtout des formes, que ce soit l'architecture de la maison, mais même tout un tas d'objets, on est sur ce côté rond et avec des objets ronds habillés de plastique brillant. Vous voyez, que ce soit des écrans de télé un petit peu bombés, même des poubelles qui sont un peu sphériques. On a vraiment un côté très rétro, mais qui témoigne quelque part de l'amour, de l'esthétique de cette époque particulière. On aime ou on n'aime pas, c'est même en termes de gamme chromatique, on est plus sur du marron, du beige, du orange, des vieux papiers peints un peu dégueulasses, mais qui situe vraiment le jeu dans son époque et qui marche très bien. Ça lui confère... Oui, vas-y.
Non, justement, pour rebondir là-dessus, ça me soulève une question. Un peu comme Pixar avec ses films, on retrouve une patte dans les jeux Arkane, qui est vraiment, à part sur Dark Messiah, parce que c'est leur premier jeu, que ce soit Bioshock, Dishonored ou Prey, il y a une patte, c'est difficile à expliquer, mais quand on y joue ou quand on voit une bande-annonce, on sent que c'est la patte Arkane, c'est-à-dire que ce soit dans le niveau du faciès des personnages, de la manière dont ils peuvent se mouvoir dans l'espace, etc. Il y a un côté qu'on retrouve. Est-ce que dans celui-là, est-ce qu'ils ont vraiment fait une césure avec leur précédent jeu, ou est-ce que tu retrouves un peu cet aspect Arkane qu'on aime ou qu'on n'aime pas finalement?
En fait, tu le retrouves très vite parce que, ne serait-ce qu'en termes de mécanique, tu récupères la téléportation assez classique, ouais, finalement de leur production, à l'instar de Corvo et des autres protagonistes de la saga Dishonored. Colt peut se téléporter avec vraiment le même type de mécanique avec ce halo qu'on projette. On TP et d'ailleurs on peut percuter des ennemis et les envoyer contre un mur ou dans le vide si on est bien positionné. D'accord. Parce que le fait que ce soit une île, ça permet aussi d'envoyer vers le récif tout un tas d'ennemis, de PNJ, en fait, que ce soit dans le moment où tu le percutes, mais aussi à travers tous les pouvoirs en fait que tu vas pouvoir équiper. D'accord. Parce que là aussi, on retrouve les mécaniques et les ficelles qui marchent bien des jeux Arkane. C'est qu'au fur et à mesure de ta progression et des cibles que tu vas réussir à éliminer, tu vas récupérer tout un tas de pouvoirs, des trinkets que tu vas équiper sur tes armes ou sur ton personnage qui vont te permettre eh bien, d'enrichir ta palette d'action. On sait que dans leur jeu, on peut la jouer bourrin. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais on peut aussi la jouer infiltration et osciller un petit peu entre les deux, même faire des runs no-kill la plupart du temps. Et bah, là, c'est une nouvelle fois quelque chose qui est possible parce que bah, ces pouvoirs vont te permettre ou de te dissimuler, de devenir invisible et donc de déambuler au milieu des gens sans te faire voir, mais aussi de manière offensive de multiplier les hits. Il y a quelques pouvoirs qu'on a pu revoir ou découvrir pour certains. Le fait d'envoyer tes adversaires en l'air, une fois qu'ils sont d'accord. En l'air, ou tu les projettes pour peu qu'il y ait un récif juste derrière, ou tu leur accroches une petite grenade, ce qui fait qu'en retombant, s'il y a des collègues autour d'eux, bah, tout le monde pète et tu maximises un petit peu les dégâts. Et de la même manière, il y a un pouvoir qui s'appelle le Nexus qui te permet en fait de relier des ennemis qui seraient assez proches les uns des autres. Ils forment une chaîne et dès que t'en butes un, tout le monde se couche. Donc un headshot bien placé et puis bah, tu fais le ménage dans une pièce pour peu que tu aies réussi à bien agencer les choses. Et d'ailleurs, en termes de dégâts, j'ai trouvé ça très, très bien fichu. On est vraiment dans une approche réaliste. Les ennemis ne sont pas des sacs à PV. Ton personnage non plus n'est pas un surhomme. Donc, quelques balles et c'est terminé. Tu rebootes, tu recommences une boucle avec bah, des informations aussi sur le placement des ennemis, sur leur réaction, ce genre de choses. Parce que,
donc, tu as évidemment... un côté des retry, quoi, c'est ça ?
Oui, alors, il y a un côté de Die and Retry. Par contre, ils ont beaucoup insisté sur le fait que pour eux, ce n'était pas du tout un roguelite. Qu'il y avait pas, en tout cas, ce n'est pas le type de mécanique et de game design qui les a animés pendant qu'ils travaillaient sur Deathloop. C'est vraiment du FPS puzzle, en tout cas, selon le discours officiel. Et du coup, bon, on a cette phase d'infiltration dans ces locaux typés années 70 pour finalement trouver un document qui nous en apprend un petit peu plus sur la personnalité de la cible qu'on avait dans le viseur. Et on découvre que bah, il sera sur les lieux, mais le soir. Donc en fait, il va falloir revenir. Et là, malheureusement, on n'a pas vu les menus. Il y a eu une transition qui s'est faite automatiquement. Mais par contre, le réalisateur nous a assuré qu'on pourrait vraiment choisir le lieu et la période du jour. Que ce soit du matin au soir à laquelle on va débarquer à tel ou tel endroit. Donc en fait, on ne sera pas pressé par le temps, on peut rester fouiller, continuer à récupérer des informations parce que le fait d'écouter des PNJ discuter entre eux, ça peut donner des indices sur tout un tas de choses. Il y a plein de manières de récolter de l'information, de faire de l'intel, mais on peut aussi basculer comme ça en changeant via un menu d'une zone à l'autre et changer la temporalité si jamais on a besoin d'accélérer un peu l'enquête. Et donc là, en l'occurrence, on revient le soir où bah, forcément les gardes sont positionnés d'une autre manière, un endroit par lequel on était passé a pu être condamné entre temps, ce genre de choses. Et là, bah, c'est des mondanités, donc on retrouve l'infiltration qu'on aime bien justement de la part d'Arkane. Et bah, une fois de plus, même quand on a la cible en vue, il y a un indice qui nous a fait comprendre qu'un tel allait donner un speech ce soir-là, et donc au moment où il monte sur l'estrade, on a le choix, est-ce qu'on sort un sniper, est-ce qu'on lui colle une balle entre les deux yeux, ou est-ce qu'on regarde un petit peu plus loin, on découvre une molette qui permet eh bien, d'ouvrir une trappe qu'il fait tomber, qui lui permet aussi de mourir, mais c'est quand même un peu moins voyant, et on peut prendre comme ça la poudre d'escampette. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Au moment où l'action, d'un coup, s'intensifie, au moment où tu te fais repérer, au moment où il y a un gunfight qui vraiment se déclenche, on a une musique un peu funk rock typique aussi des années 70 qui se lance avec une batterie très présente et qui fait que d'un coup voilà, l'action gagne en intensité, on est vraiment plongé là-dedans, on avait quelque chose de très calme, feutré, vraiment réfléchi et d'un coup ça part un peu dans tous les sens et on est accompagné justement par le son. Par contre, c'est peut-être les phases pour lesquelles j'ai une petite réserve, c'est qu'en termes de feeling, d'impact des armes, etc., j'ai trouvé que ça manquait un petit peu.
Justement, j'allais te poser la question.
Ouais. Ça manque un peu de patate, vas-y.
Quand tu sais qu'ils ont fait quand même Youngblood, quand même à Wolfenstein, c'est quand même un monument du FPS, c'est vrai que ça peut étonner qu'il n'y ait pas vraiment de feeling important sur les armes. Quand tu as ce background dans ton CV et que tu te dis « Ah, j'ai travaillé sur Wolfenstein », ça peut être problématique. Mais après, peut-être que ce n'est pas non plus l'esprit qu'ils ont voulu donner justement pour réduire le côté un peu bourrin de certaines productions qu'ils avaient pu faire auparavant.
Ouais, je pense que vu que l'approche visuelle est assez différente, enfin Youngblood, on est dans un truc assez viscéral, assez réaliste, un peu, je vais pas dire crade, mais un point
oui.
d'indus, etc. Et quelque part, ça allait avec. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus léché, d'un peu plus coloré. On a beaucoup de saturation de couleurs, en fait, dans les environnements.
Un peu comme...
Ouais, mais alors même au début, j'en parlais dans la preview. Il y a des moments où j'ai même pensé à Death Stranding, donc vraiment du Kojima, donc un truc assez barré quand même, avec un ciel roux, enfin non, c'était la roche en l'occurrence, mais vraiment rouge, vive, avec un petit côté surréaliste. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé que les gunfights pour l'instant manquaient peut-être encore un petit peu d'intensité et vraiment de ressenti en termes de dégâts, etc. On a encore l'impression d'avoir des armes un poil factice et de se battre contre des ennemis qui sont parfois un tout petit peu des pantins. Voilà, s'il y avait encore quelque chose peut-être à corriger sur les derniers mois de développement, ce serait plus cet impact, cette sensation vraiment de créer des dégâts en fait chez l'adversaire. Pour le reste, moi j'ai été vraiment conquis. On a vu évidemment qu'une petite partie, on a eu l'occasion quand même de boucler, de voir à quel point le fait de revenir en arrière et de te dire « Ok, j'ai obtenu le code de telle porte », ce qui fait que ça va me permettre de passer directement par ici sur la run d'après, et en fait de monter en puissance au-delà du fait que tu vas récupérer des pouvoirs, y compris sur tes cibles, parce qu'en fait, une fois que tu sais comment désinguer une cible, tu peux continuer de lui faire la peau pour récupérer d'autres pouvoirs pendant 4 ou 5 boucles. En fait, tu vas pouvoir t'acharner quelque part sur l'une de tes cibles pour grimper en puissance. Et en fait, ta run ultime, le moment où tu vas réussir à te faire les 8 protagonistes, y compris Juliana, qui est l'antagoniste principale qu'on avait découvert dès l'annonce du jeu à l'E3 2019, elle peut être incarnée par un joueur, donc être complètement imprévisible, se cacher un petit peu partout, même apparaître pour saborder ta partie. C'est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'ils ont fait à dessein parce qu'ils ne voulaient pas scinder le mode campagne et le mode multijoueur. Ils ont voulu vraiment fusionner les deux. Mais du coup, voilà, ton run parfait, c'est pas tant quelque chose de difficile à exécuter que quelque chose de logique qui va résulter de toutes les informations que tu auras réussi à récolter. Et à la
c'est
manière.
C'est ta récompense, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est... Tu vas avoir l'impression d'être devenu le game master et d'avoir manipulé un petit peu les visionaries pour les mettre au bon endroit, au bon moment, puisque ça, on l'avait déjà vu, mais ça nous a été redit. Par exemple, le soir où on est allé désinguer notre orateur, y a l'un des autres visionaries qui aurait pu être présent. Le problème, c'est que le matin même, il a fait une découverte dans son labo, le mec est scientifique et chercheur, et du coup, le fait qu'il ait fait sa découverte l'a fait rester, bosser là-dessus pour creuser un petit peu ce qu'il venait de trouver. Sauf que si toi, tu l'apprends, t'y vas avant, tu sabotes son travail de recherche, il n'a plus de raison de ne pas aller à la soirée. Du coup, au moment où toi, tu vas y aller le soir, tu as deux visionaries qui sont là en même temps, donc deux cibles que tu peux abattre assez rapidement. Et voilà, ton run ultime, ça va être plutôt d'avoir un cheminement rapide, logique, qui va te permettre de buter tout le monde très facilement. Et le réalisateur a insisté sur le fait que ce n'était pas une recherche de skill à tout prix, mais plus cette résolution de puzzle gigantesque qui va évidemment te donner une sensation forcément assez jouissive. Vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce que j'ai vu, que ce soit sur le plan visuel, voilà, mis à part vas-y.
Justement, j'ai une petite question par rapport à ça, même si ça rebondit pas spécialement avec ton propos juste d'auparavant. Moi, je sais que ce qui m'avait choqué entre guillemets, enfin qui m'avait impressionné ou quoi, quand j'avais vu le jeu pour la première fois en bande-annonce, les images, les screenshots, c'était un peu ce filtre rougeâtre orange. En fait, clairement, le rouge, c'était une des couleurs dominantes du jeu. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'ils ont réduit un peu ça par rapport à les premiers visuels qu'on avait pu voir auparavant ?
Alors, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce que d'un côté, l'ambiance 70s, elle est très clairement orientée vers du rouge, du orange, du beige, vraiment des couleurs déco, design de l'époque. Mais à côté de ça, on a pu voir surtout un lieu sous différents aspects, à différents moments de la journée. Ça n'est pas non plus que ça, parce que... notamment l'extérieur, les façades extérieures, des éléments comme ça un peu différents permettent d'ajouter du bleu, d'ajouter voilà, des couleurs qui tranchent un petit peu, mais très clairement, on reste sur de la dominante rouge, orangé, beige. C'est, en tout cas, pour ce qu'on a vu, c'est très clairement la gamme chromatique qui domine, qui va donner un petit peu son identité au jeu, et c'est quand même assez logique. enfin ça va très bien avec le voilà ce côté années 70. Alors ils auraient peut-être pu tenter autre chose et dire on garde le design mais on change les couleurs, ça aurait peut-être donné quelque chose d'intéressant, je sais pas, mais là-dessus c'est toujours extrêmement présent. Moi, ça ne m'a pas dérangé, alors que, bah, à titre personnel, je ne trouve pas que les années 70 soit la décennie qui sur le plan visuel, ait été la plus intéressante, mais ça lui permet de se démarquer. Mine de rien, ce côté tranché, ça lui confère une identité artistique et visuelle qui est non seulement forte, mais qui est en plus très, très appréciable, je trouve, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors après, dites-nous, très chers lecteurs, ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai vraiment été conquis. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir y jouer parce que déjà, le nom d'Arkane les précède et on est très, très nombreux à la rédac à avoir... adoré la saga Dishonored et les jeux qu'ils ont pu faire à côté, et aussi un grand fan de Prey. Voilà, on l'attend très clairement, et ce que j'ai vu m'a complètement rassuré sur la direction que prend le jeu. Donc il faut encore attendre un petit peu parce qu'il arrive vraiment à la toute fin de l'été, c'est le 14 septembre sur PC et sur PS5, alors avec évidemment des fonctionnalités haptiques sur la DualSense qu'il me tarde de pouvoir découvrir manette en main, mais voilà, c'est très clairement bien parti pour Arkane qui signe malheureusement l'un de ses derniers jeux sur PS5, en tout cas édité par Bethesda. Donc il faudra en profiter et on se retrouvera évidemment pour le test en bonne et due forme à ce moment-là. Mais si vous l'attendiez, vous pouvez cocher la case dans votre calendrier. A priori, ça va être du très 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 bon.
Parfait, parfait. Ça donne envie en tout cas, parce que c'est vrai que moi les productions Arkane, je les attends souvent, et là, ce que tu en as dit, ce qu'on a décrit, ça donne particulièrement envie. Puis c'est intéressant ce que tu disais sur une petite divergence, mais sur les gammes chromatiques, parce que vraiment, il y a des studios, enfin des studios de développement qui ont souvent des gammes chromatiques très semblables dans leur production vidéoludique, et c'est marrant de voir ça, quoi. Par exemple, je sais que pour Prey, c'était l'exact inverse. Prey, c'était des couleurs verdâtres, grises, etc., et il n'y avait quasiment aucune note de couleur.
Oui, et c'est normal puisqu'on était dans l'espace.
C'est ça, ouais. Et c'est intéressant de voir des jeux comme ça qui adoptent une gamme chromatique et qui te la font aimer finalement de bout en bout, même si tu n'as pas forcément d'affinité avec en découvrant le jeu, quoi.
Et qui la rendent cohérente, parce que l'Angleterre victorienne et industrielle qui habillait justement la saga Dishonored, c'est pareil, c'était des tons foncés aussi, c'était beaucoup de métallurgie, beaucoup de gris foncé, des bois du même style, et ça renforce une fois de plus l'immersion, et sans surprise, là ça marche une fois de plus, même si c'est très différent, ça marche encore très bien.
Très bien.
Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité, les enfants. On va remercier, comme d'habitude, notre cher Poufy à la sono, qui aura perturbé Camille en lui racontant plein de bêtises dans l'oreillette. Et on va vous remercier d'avoir une nouvelle fois suivi ce podcast avec nous. La semaine prochaine, si tout va bien, incroyable mais vrai, Plume rentre de vacances. Il sera donc de retour avec nous, bronzé, reposé, tout ce que vous voulez. Et on vous dit... donc, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Ciao et plein de bisous.
Merci, salut.